Paris, livre 4, chapitre 5. Là-haut, dans l'atelier si clair et si gai d'habitude, les jours qui suivirent parurent assombris. Comme si la vaste pièce s'était emplie de tristesse et de silence. Justement, les trois grands-fils n'étaient point là. Thomas partit dès le matin à l'usine pour le petit moteur, François qui ne quittait guère l'école normale tout à la préparation de son examen, Antoine pris par un travail chez Jahan, où le retenait la joie de voir sa petite amie Lise s'éveiller à la vie. Et Guillaume n'avait plus avec lui que Mère Grand, toujours assise près du vitrage, occupée à quelque ouvrage de couture, tandis que Marie, allant et venant par la maison, n'était guère là que pendant les heures où Pierre lui-même s'y trouvait. Dans ce deuil, tous ne voyaient, chez le père, que la sourde colère, la révolte désespérée où le jetait la condamnation de Salvat. Il s'était emporté au retour du palais. Il avait dit que, si l'on exécutait ce malheureux, c'était un assassinat social, une provocation à la guerre des classes. Et tous s'étaient inclinés devant la douloureuse violence de ce cri, sans discussion. On laissait respectueusement le père aux pensées, qui, pendant des heures, le tenait muet, blêmi, les yeux vagues. Son fourneau de chimiste restait froid. Il ne s'occupait plus, du matin au soir, que de revoir longuement les plans et les dossiers de son invention, la poudre nouvelle, le formidable engin de guerre, dont il avait si longtemps rêvé de faire cadeau à la France, pour que, régnant sur les nations, elle pût un jour imposer au monde la victoire de la vérité et de la justice. Mais, durant les heures interminables qu'il passait ainsi devant les papiers épars sur sa table, cessant de les voir parfois, les regards perdus au loin, un flot de pensées imprécises passait en lui. Des doutes, peut-être, sur la sagesse de son projet, des craintes que son désir de pacifier les peuples ne les jetât à une guerre exterminatrice, sans fin. Ah ! Ce grand pari qu'il croyait sincèrement être le cerveau du monde, chargé d'enfanter l'avenir. Quel spectacle abominable il donnait encore! Tant de sottises, tant de honte, tant d'injustice! Était-il vraiment assez mûr pour la besogne de salut humain qu'il songeait à lui confier? Et quand il se remettait à relire, à vérifier les formules, il ne retrouvait sa volonté ancienne. Il ne reprenait son projet qu'à la pensée de son prochain mariage, en se disant que les choses étaient réglées depuis trop longtemps pour qu'il bouleversât maintenant sa vie à vouloir les changer. Son mariage, n'était-ce pas l'idée qui hantait Guillaume, qui le troublait plus encore que son œuvre de savant, que sa passion de citoyen libertaire? Sous toutes les préoccupations avouées, il y en avait une autre, qu'il ne se confessait pas à lui-même et qu'il angoissait. Chaque jour, il se répétait que, lorsqu'il aurait épousé Marie, il révélerait le secret de son invention au ministre de la guerre. Il associerait sa jeune femme à sa gloire. Épouser Marie ! Épouser Marie ! Cela l'emplissait chaque fois d'une ardente fièvre et d'une inquiétude sourde. S'il se taisait à présent, s'il n'avait plus sa gaieté tranquille, c'était qu'il avait senti émaner d'elle toute une nouvelle vie qu'il ne lui connaissait pas. Elle devenait certainement autre. Il la devinait de plus en plus changée et lointaine. Et lorsque Pierre se trouvait là, il s'était mis à les observer tous les deux. Pierre venait rarement, gêné, différent lui aussi. Puis, les matins où il arrivait, Marie était comme transformée, la maison semblait s'animer d'une autre âme. Rien pourtant ne se passait entre eux qui ne fût innocent et fraternel, ils ne paraissaient que bons camarades, sans même un effleurement des doigts, causant sans rougeur. C'était un rayonnement, une vibration qui sortait d'eux, malgré eux, un souffle plus subtil qu'un rayon ou qu'un parfum. Après quelques jours, Guillaume, bouleversé, le cœur saignant, ne put douter davantage. Et il n'avait rien surpris, mais il était convaincu que les deux enfants, comme il les avait si paternellement nommés, s'adoraient. Un matin qu'il était seul avec Mère Grand par une journée superbe en face de Paris ensoleillé, il tomba dans une rêverie encore plus angoissée que de coutume. Il la regardait fixement, assise à sa place habituelle, tirant l'aiguille sans lunettes de son air de sérénité royale. Peut-être ne la voyait-il pas. Et elle, de temps à autre, levait les yeux, le regardait aussi, comme si elle eût attendu une confession qui ne venait pas. Puis, dans l'interminable silence, elle se déclara. « Guillaume, qu'avez-vous donc depuis quelque temps? Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous avez à me dire ?» Il redescendit sur terre et il s'étonna. « Ce que j'ai à vous dire ?»« Oui, je sais la chose que vous savez vous-même, et je pensais que vous en causeriez avec moi, puisque vous voulez bien ne rien faire ici sans me consulter. » Il était devenu très pâle, il se mit à frémir, car il ne se trompait donc pas, puisque Mère Grand elle-même savait. Causer de cela, c'était donner un corps à ses soupçons. Rendre réel et définitif ce qui, jusque-là, pouvait n'exister que dans son idée. Mon cher fils, la chose était inévitable. Dès les premiers jours, je l'ai prévue. Et si je ne vous ai pas averti, c'est que j'ai cru à toute une pensée profonde de votre part. Mais depuis que je vous vois souffrir, je comprends bien que je me suis trompée. Et comme il continuait à la regarder, éperdu, frissonnant, « Oui, je me suis imaginé que vous pouviez avoir voulu cela, qu'en amenant votre frère, vous désiriez sans doute savoir si Marie vous aimait autrement que comme un père. Il y avait une raison si forte, la grande différence des âges, la vie qui finit pour vous et qui commence pour elle, sans parler de vos travaux, de la mission que vous vous êtes donnée. » Alors, les mains suppliantes, il s'approcha, il s'écria. « Oh, parlez clairement, dites-moi ce que vous pensez. Je ne comprends pas, mon pauvre cœur est trop meurtri, et je voudrais tant savoir, agir, prendre une décision. C'est vous que j'aime, que je vénère comme une mère. C'est vous dont je connais la haute raison, dont j'ai toujours suivi les conseils. C'est vous qui avez prévu cette chose affreuse et qui l'avez laissée se faire, au risque de m'en voir mourir. Pourquoi? Pourquoi? Dites !» D'habitude, elle n'aimait guère parler. Maîtresse souveraine, soignante et dirigeant la maison, sans avoir à rendre compte de ses actes. Si elle ne disait jamais tout ce qu'elle pensait, ni tout ce qu'elle voulait, c'était que, dans la certitude de son absolue sagesse, le père, comme les enfants, s'abandonnait complètement à elle. Et ce côté un peu énigmatique la grandissait encore. « À quoi bon des paroles ?» dit-elle doucement, sans cesser de travailler. « Lorsque les faits parlent, c'est certain, j'ai approuvé votre projet de mariage, en comprenant que Marie devait vous épouser pour rester ici. Et puis, il y avait beaucoup d'autres raisons inutiles à dire. Mais l'arrivée de Pierre a tout changé, a remis les choses dans leur ordre naturel. N'est-ce pas meilleur ? » Il n'osait toujours comprendre. « Meilleur ? Quand j'agonise ? Quand ma vie est dévastée ?» Alors elle se leva. Elle vint à lui, rigide, très haute, dans sa mince robe noire, avec sa pâle face d'austérité et d'énergie. « Mon fils, vous savez que je vous aime, que je vous veux très grand et très pur. L'autre matin, vous avez eu peur, cette maison a failli sauter. Depuis quelques jours, vous restez sur ces dossiers, sur ces plans, l'air distrait, éperdu, en homme pris de défaillance, qui doute et ne sait plus où il va. Croyez-moi, vous êtes dans un mauvais chemin. Il vaut mieux que Pierre épouse Marie, pour eux et pour vous. » «
Pour moi ? Oh non, non ! Que deviendrai-je, moi ? » «
Vous, mon fils, vous vous calmerez, vous réfléchirez. Votre rôle est si grave à la veille de faire connaître votre invention. Il me semble que votre vue s'est troublée et que vous allez mal agir, peut-être, en ne tenant pas compte des conditions du problème. Je sens que vous avez autre chose à trouver. Enfin, souffrez s'il le faut, mais restez l'homme d'une idée. » Puis, en le quittant avec un sourire maternel afin d'adoucir un peu sa rudesse, « Vous me forcez à parler bien inutilement, car je suis tranquille. Vous êtes trop supérieur pour ne pas faire en tout la chose unique et juste que personne autre ne ferait. » Resté seul, Guillaume tomba dans de fiévreuses réflexions. Qu'avait-elle voulu dire avec ces rares paroles à demi-obscures ? Il la savait acquise à ce qui était bon, naturel et nécessaire. Mais elle le poussait à un héroïsme plus haut. Elle venait d'éclairer en lui tout le malaise confus où le jetait son ancien projet d'aller confier son secret à un ministre de la guerre. N'importe lequel, celui du moment. Une hésitation, une répugnance croissante le soulevait, tandis qu'il l'entendait répéter de sa voix grave qu'il avait mieux à faire, autre chose à trouver. Et brusquement, l'image de Marie passa, tout son triste cœur se déchira à la pensée qu'on lui demandait de renoncer à elle. Ne plus la voir à lui, la donner à un autre, non, non, cela était au-dessus de ses forces humaines. Jamais il n'aurait cet abominable courage de dédaigner cette dernière joie d'amour qu'il s'était promise. Pendant 2 jours, il lutta, une affreuse lutte, où il revivait les 6 années que la jeune fille avait déjà vécues près de lui, dans la petite maison heureuse. Elle avait d'abord été comme sa fille adoptive, et plus tard, lorsque l'idée d'un mariage entre eux était née, il s'y était complu avec une allégresse tranquille, un espoir qu'une pareille union ferait du bonheur pour tous autour de lui. S'il avait refusé de se remarier, c'était dans la crainte d'imposer à ses enfants une nouvelle mère inconnue. Et il ne cédait au charme d'aimer encore, de ne plus vivre seul, qu'en trouvant au foyer même cette fleur de jeunesse, cet ami qui voulait bien se donner si raisonnablement, malgré la grande différence des âges. Puis, des mois s'étaient écoulés, des événements graves les avaient forcés à reculer la date, sans qu'il en souffrît trop cruellement. La certitude qu'elle l'attendait lui avait suffi, dans le pli de patience qu'il avait contracté durant sa vie déjà longue d'acharné travail. Et voilà, brusquement, sous la menace de la perdre, que son cœur, si paisible, se fendait et saignait. Jamais il n'aurait cru que le lien s'était fait si étroit, qu'elle tenait si profondément à sa chair. Chez cet homme qui touchait à la 50aine, c'était l'arrachement même de la femme, la dernière aimée et désirée. D'autant plus désirable qu'elle incarnait la jeunesse, dont il ne respirerait jamais plus l'odeur, dont il ne goûterait plus le souffle s'il la perdait. Un désir fou, mêlé de colère, avait flambé en lui, et il la voulait. Sa torture s'exaspérait à l'idée que quelqu'un était venu la lui prendre. Seul dans sa chambre, une nuit surtout, il se martyrisa. Pour ne pas éveiller la maison, il étouffait sa peine au fond de son oreiller. Rien n'était plus simple d'ailleurs. Puisque Marie s'était donnée, il la garderait. Il avait sa parole, il la forcerait à la tenir, voilà tout. Au moins, il l'aurait, à lui seul, sans qu'un autre puisse songer à la lui voler. Et tout d'un coup, l'image de cet autre surgissait, son frère, l'oublié, qu'il avait obligé lui-même par tendresse à être de la famille.
Mais la souffrance était trop vive. Il l'aurait chassé, ce frère. Il se sentait pris contre lui d'une rage dont l'atrocité achevait de le rendre fou. Son frère, son petit frère, c'était donc fini de l'aimer. Ils allaient s'empoisonner de haine et de violence. Pendant des heures, il délira. Il chercha comment supprimer Pierre pour que ce qui était advenu ne fût pas. Par moments, il se ressaisissait. Il s'étonnait d'une telle tempête dans sa haute raison de savant, dans sa vieille expérience sereine de travailleur. C'était qu'elle souffrait ailleurs en lui, dans l'âme d'enfant qu'il avait gardée, le coin de tendresse et de songe qui subsistait, à côté de l'impitoyable logique, de l'unique croyance au phénomène. Son génie même était fait de cette dualité. Le chimiste se doublait ainsi d'un rêveur social, affamé de justice, capable de vastes amours. Et la passion l'emportait. Il pleurait Marie comme il aurait pleuré l'écroulement de son rêve, la guerre tuée par la guerre, ce salut de l'humanité auquel il travaillait depuis 10 ans. Puis, dans sa lassitude, une décision le calma. La honte lui venait de se désespérer de la sorte, sans cause certaine. Il voulait savoir, il questionnerait la jeune fille. Elle était assez loyale pour lui répondre franchement. N'était-ce pas la solution digne d'eux, une explication sincère qui leur permettrait de prendre ensuite un parti? Il s'endormit. Il se leva brisé le matin, mais plus tranquille, comme si tout un travail sourd s'était fait en son cœur, après un tel orage, pendant ces quelques heures de sommeil. Ce matin-là, justement, Marie était très gaie. La veille, elle avait fait, avec Pierre et Antoine, une longue promenade à bicyclette du côté de Montmorency, par des chemins atroces et dont ils étaient revenus furieux et ravis. Lorsque Guillaume l'arrêta dans le petit jardin, elle le traversait en chantonnant, les bras nus, de retour de la buanderie où s'achevait une lessive. « Vous avez à me parler, mon ami ?»« Oui, cher enfant, il faut bien que nous causions de choses sérieuses. » Elle comprit qu'il s'agissait de leur mariage. Elle devint grave. Ce mariage, elle l'avait accepté autrefois, comme le seul parti raisonnable qu'elle avait à prendre, sans ignorer rien des devoirs qu'elle contractait. Sans doute, elle épousait un homme d'une 20aine d'années plus âgé qu'elle, mais c'était là un cas assez fréquent qui tournait plutôt bien d'ordinaire. Elle n'aimait personne, elle pouvait se donner. Et elle se donnait dans un élan de gratitude, d'affection, d'une telle douceur qu'elle crut y sentir la douceur même de l'amour. On était si heureux autour d'elle de cette union, dont le lien plus étroit allait resserrer la famille. Toute sa bravoure, toute sa gaieté à vivre, qui était son charme, l'avait comme grisée à l'idée de faire ainsi du bonheur. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-elle un peu inquiète. « Rien de mauvais, je pense. »« Non, non, simplement quelque chose que j'ai à vous dire. » Il l'emmena sous les deux pruniers, dans le seul coin de verdure qui fut resté. Un banc vermoulu s'y trouvait encore, adossé au lilas. Et le Grand Paris, en face, déroulait la mer sans fin de ses toitures, légères et fraîches sous le soleil matinal. Tous deux s'étaient assis. Mais, au moment de parler, de la questionner, il éprouvait une brusque gêne, tandis que son pauvre cœur battait violemment, à la voir si jeune, si adorable avec ses bras nus. « La date approche, » finit-il par dire. « C'est pour notre mariage. » Et à ce mot, comme elle pâlissait légèrement, inconsciemment peut-être, il se sentit glacé lui-même. N'avait-elle pas eu un pli douloureux de la bouche? Ses yeux, si francs et si clairs, ne s'étaient-ils pas troublés d'une ombre? Oh, nous avons encore du temps devant nous! Il reprit, d'une voix lente, très affectueuse. Sans doute. Pourtant, il va falloir s'occuper des formalités. Ce sont des ennuis dont il vaut mieux que je vous parle aujourd'hui, pour ne plus avoir à y revenir. » Doucement, il continua, insista sur ce qu'ils allaient avoir à faire, sans la quitter du regard, guettant sur son visage les émotions que l'échéance prochaine pouvait y faire monter. Elle était devenue silencieuse, la face immobile, les mains sur les genoux, ne donnant aucun signe certain de regret ni de peine. Pourtant, elle restait comme accablée, simplement obéissante. « Ma chère Marie, vous vous taisez. Est-ce que quelque chose vous déplairait ?»« À moi ? Oh non, non !»« Vous savez que vous pouvez parler franchement. Nous attendrons encore, si vous avez une raison personnelle, pour que la date soit de nouveau reculée. » « Mais, mon ami, je n'ai aucune raison. Quelle raison voulez-vous que j'aie ? Je vous laisse le maître absolu de tout régler à votre désir. » Un silence se fit. Elle l'avait regardé loyalement, en face, mais un petit frémissement agitait ses lèvres, pendant qu'une tristesse ignorée semblait monter d'elle et noyer son visage, d'une clarté et d'une gaieté d'eau vive. Autrefois, n'aurait-elle pas ri et chanté à l'annonce de cette prochaine fête du mariage? Alors Guillaume osa, dans un effort dont sa voix tremblait. « Ma chère Marie, pardonnez-moi de vous poser une question. Il est temps encore de me rendre votre parole. Êtes-vous absolument certaine de m'aimer ?» Elle le regarda avec une réelle stupeur, sans comprendre où il voulait en venir. Puis, comme elle semblait attendre pour répondre, « Descendez dans votre cœur, interrogez-le. Est-ce bien votre vieil ami ? N'est-ce pas un autre que vous aimez ? Moi ? Moi, Guillaume ? Pourquoi me dites-vous cela ? Qu'ai-je donc fait qui vous autorise à me le dire ? » Et elle était vraiment soulevée de révolte et de franchise, ses beaux yeux sur les siens, tout brûlants de sincérité. « Il faut pourtant que j'aille jusqu'au bout, » reprit-il péniblement, « car il s'agit de notre bonheur à tous. Interrogez votre cœur, Marie. Vous aimez mon frère. Vous aimez Pierre. » « J'aime Pierre ? Moi ? Moi ? Mais oui, je l'aime. Je l'aime comme je vous aime tous. » Je l'aime parce qu'il est devenu nôtre, parce qu'il fait partie maintenant de notre vie et de notre joie. Quand il est là, je suis heureuse, certes, et je désirerais qu'il y fût toujours. Cela me ravit de le voir, de l'entendre, de sortir avec lui. Dernièrement, j'ai été très chagrine qu'il parût repris de ses humeurs noires. C'est naturel, n'est-ce pas ? Je crois n'avoir fait que ce que vous désiriez. Et je ne comprends pas en quoi mon affection pour Pierre peut influer sur notre mariage. » Ces paroles, qui d'après elle auraient dû convaincre Guillaume, achevèrent de l'éclairer douloureusement, tant elle venait de mettre de flamme à se défendre d'aimer le jeune homme. « Mais malheureuse, malheureuse, vous vous trahissez sans le vouloir. Cela est bien certain, vous ne m'aimez pas, et c'est mon frère que vous aimez. » Il avait pris ses poignets nus. Il les serrait avec une tendresse désespérée, comme pour la forcer à voir clair en elle. Et elle continuait à se débattre. La plus affectueuse et la plus tragique des luttes se prolongea entre eux. Lui, voulant la convaincre par l'évidence des faits, elle résistant, s'entêtant à ne pas ouvrir les yeux. Vainement, il reprit l'aventure depuis le premier jour. Il lui expliqua ce qui s'était passé en elle. D'abord la sourde hostilité, puis la curiosité pour ce garçon extraordinaire, enfin la sympathie, la tendresse quand elle l'avait vu si misérable, peu à peu guérie par elle de son angoisse. Ils étaient jeunes tous les deux, la bonne nature avait fait le reste. Mais à chaque preuve, à chaque certitude nouvelle qu'il lui donnait, Elle n'était envahie que d'un émoi croissant, un frisson qui la faisait trembler toute, sans vouloir consentir à s'interroger. « Non, non, je ne l'aime pas. Si je l'aimais, je le saurais, je vous le dirais, car vous me connaissez, je suis incapable de mentir. »
Il eut la cruauté d'insister, en chirurgien héroïque qui taille dans sa chair plus encore que dans celle des autres, pour que la vérité se fasse et que le salut de tous soit assuré. « Marie, ce n'est pas moi que vous aimez. Vous n'avez pour moi que du respect, de la reconnaissance, une tendresse toute filiale. Rappelez-vous vos sentiments à l'époque où fut arrêté notre mariage. Vous n'aimiez personne alors. Vous avez accepté, en fille raisonnable, certaine que je vous rendrais heureuse, trouvant cette union juste et bonne. Et mon frère est venu. Et l'amour est né naturellement. Et c'est Pierre. Pierre seul que vous aimez d'amour, de l'amour qu'on doit avoir pour un amant, pour un époux. » À bout de résistance, bouleversée devant la clarté qui se faisait en elle, malgré sa volonté, elle s'obstinait à protester éperdument. « Mais pourquoi vous débattez-vous ainsi, mon enfant? Je ne vous fais aucun reproche. C'est moi qui ai voulu cette chose, en vieux fou que je suis. Ce qui devait être est arrivé, et il est bon sans doute que cela soit. Je ne voulais que savoir la vérité de vous pour prendre une décision et agir en honnête homme. »